16h-18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
2 heures de voyage. Tout à l'heure, à partir de 17h, je vous emmènerai dans un pays étonnant. C'est le pays de la nature, de la jungle luxuriante. Plus d'un quart de la surface de ce pays est protégée. Là-bas, il est même extrêmement compliqué de construire si vous êtes à moins de 200 mètres de la plage. Donc vous avez des étendues incroyables de plages immaculées le long de la mer des Caraïbes, que vous entendez derrière moi, mais aussi le long de l'Atlantique. C'est un pays pacifique, sans armée, qu'on appelle la Suisse de l'Amérique centrale. C'est le Costa Rica. Et puis, en première heure, nous allons partir pour une région qu'on adore. Rien que de prononcer son nom, la Corse, on en sent le caractère bien trempé. Ça, c'est l'hymne corse. La montagne dans la mer, les routes qui serpentent dans des paysages sublimes, grimper jusqu'à 2700 mètres, souvent en apercevant la mer, c'est ça la Corse. C'est l'île de beauté, les Grecs l'appelaient déjà Callistée, qui signifiait la plus belle. C'est la destination de vacances française qui nous a tous fait rêver un jour ou l'autre. Et un beau voyage en Corse, ça se prépare, ça se mitonne avec moi toute une bande de grands voyageurs. Nathalie Elal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur, grande voyageuse, on adore toutes vos histoires croustillantes. Jean-Bernard Carrier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'homme qui a les clés, vous êtes l'homme du guide Lonely Planet. Et puis Olivier Pauls, chroniqueur gastronomie culte,
bonjour.
On ne le présente plus. Jean-Bernard, à la Corse, en général on voit à peu près où c'est. On n'a pas trop de mal à localiser, on sait que c'est en bas à droite sur la carte. Mais en fait, on ne se rend pas bien compte, c'est loin ou pas du continent?
C'est ni proche ni loin, c'est un petit peu intermédiaire en termes de distance. C'est à 160 km à vol d'oiseau de Nice, pour vous situer.
Ouais.
Alors, ce qui est bien, c'est que la Corse est très très bien desservie à la fois en avion. Il y a 4 aéroports sur l'île, ce qui est énorme pour une île de cette taille-là. Mmh. Et il y a également une très bonne desserte en ferry.
Combien
au départ
de
Marseille. Alors, au départ de Marseille et de Nice, on met au plus court, on met 3h30.
D'accord.
Au plus long, ça va entre 6h30 et 10h, selon le type de ferry.
Voilà. Les paysages corses.
Alors, attendez, une petite astuce, on peut aussi partir d'Italie, de Livourne, et ça sera que 2h30.
Ah,
voilà,
oui.
Ça, il faut le savoir.
Oui, mais il faut aller jusqu'à Livourne.
Il faut aller jusqu'à Livourne.
Et à la nage, c'est beaucoup plus rare.
Ah, là, ça met 2 jours, si vous êtes un très bon nageur, Olivier. Je pense que vous pourrez le faire.
Les paysages, c'est montagne et mer en même temps.
Alors, c'est une montagne qui tombe dans la mer, et vue d'avion, quand on arrive d'avion, c'est phénoménal. On a l'impression que c'est une forteresse minérale qui dérive sous les flots bleus de la Méditerranée. Déjà, on est dans l'ambiance.
Nathalie, il y a des hommes célèbres, forcément. Il y en a un.
Au moins un.
Moi, je ne pensais pas à celui-là.
Ah bah,
moi,
non, si, je vais vous dire pourquoi. Parce que lui, c'est le deuxième empereur de Corse. C'est, bien sûr, Tino Rossi, chanteur, acteur, avec cette voix veloutée incroyable, qui est mort il y a quand même déjà une paire d'années. Hein. Mais plus de 1000 chansons à son actif, 24 films, 4 opérettes et Petit Papa Noël que vous avez entendu. Bien sûr, il n'y a pas le sapin, ça ne sent pas du tout le sapin, sauf pour Tino. Désolé, ça demeure la chanson la plus vendue de l'histoire en France.
Et vous retiendrez donc que Nathalie Elal place Tino Rossi devant
Napoléon.
Oui, mais j'adore.
Et alors, c'était incroyable.
J'adore
ça, cette
hiérarchie. Mon petit Bonaparte, qu'on surnommait d'ailleurs Nabulio. Nabulio, ça veut dire touche à tout. Alors, il est né à Ajaccio le 15 août 1769, notre empereur, c'est-à-dire un an après le traité de Versailles, par lequel la République de Gênes a cédé la Corse à la France. Donc, il est né français, il a failli naître génois, en fait.
C'est
ça l'histoire. Mais famille italienne, bien entendu. Et puis, un petit peu plus près de nous quand même, beaucoup plus contemporain, la grande danseuse Marie-Claude Pietragala étoile à l'opéra pendant 8 ans, de 90 à 98, qui est une chorégraphe exceptionnelle. Ouais. La sublime Laetitia Casta, mi-corse par son père, mi-normande, elle est mi-tout, hein, par sa mère, avec une carrière de mannequin qui a démarré dans le village corse où elle passait ses vacances, et puis encore plus près, Jennifer et Clara Luciani, très récemment.
Très bien. Merci Nathalie. Beau tableau. Olivier Pauls, la gastronomie, ça sent la charcutaille, ça sent la cochonaille.
Ah ben la Corse, ça donne faim, soyons clairs. Alors, il n'y a pas beaucoup de gastronomie identitaire corse, dans le sens où on ne trouve pas beaucoup de plats. On y reviendra tout à l'heure, de plats corse, mais il y a une multitude de produits. Vous l'avez dit, la charcuterie, évidemment. Méfiez-vous toutefois des contrefaçons.
Oui,
là aussi, on y reviendra.
Ouais.
Les fromages. Et puis les vins corses, je pense au muscat du Cap Corse,
oh,
par
oui.
exemple. Et puis à cette belle bouteille que je vous ai apportée, ouais. que nous dégusterons ensemble tout à l'heure. Vous allez voir, avec des cépages typiquement corses qu'on ne trouve nulle part ailleurs et qui font tout le charme de ces vins.
Vivement. À tout à l'heure, Olivier. Nous serons également en ligne dans un instant sur Europe 1 avec un amoureux de la Corse. Un chanteur attaché à ses racines. C'est l'enfant du Sud. Il a grandi entre Marseille, Cargèse et Ajaccio. L'île de Beauté, c'est son refuge, sa terre de cœur, vous allez voir, il l'adore. Patrick Fiori sera avec nous dans un instant. Deux heures de voyage tous les après-midi sur Europe 1, le cœur léger, sans contraintes, sans frontières. Deux heures juste pour le plaisir de rêver. Après 17h, je vous emmènerai dans un tout petit pays, mais très gâté par Dame Nature. C'est le pays du célèbre Quetzal, l'oiseau sacré des Mayas. On ne partira tout à l'heure au Costa Rica, mais là tout de suite, nous sommes en Corse, avec un amoureux absolu de la Corse. Il a représenté la France à l'Eurovision avec la chanson « Mama Corsica ». Il était Phébus dans la comédie musicale « Notre-Dame de Paris », coach dans l'émission « The Voice Kids » depuis plusieurs années. Et si je le reçois cet après-midi, c'est pour qu'il nous parle de cette terre qu'il chérit tant. J'adore ça. C'est frisson
ça
sur
fait
la peau
vibrer,
garantie.
Hein.
Ah oui, mais ça marche à tous les coups. Vous avez reconnu Patrick Fiori, qui est en duo là avec Patrick Bruel. Bonjour Patrick Fiori.
Et bonjour, comment allez-vous?
Bah, très bien, je suis heureux de vous avoir en ligne. Ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez là pour parler de la Corse que vous aimez tant. Vous êtes en direct de la Corse là?
Alors je suis en direct de la Corse et pour tout vous dire, je vous parle avec un paysage assez exceptionnel devant moi. Voilà, il y a la grande baie vitrée à l'étage. Et je suis en train d'apercevoir toute la baie d'Ajaccio avec toutes les montagnes qui se jettent dans la mer, avec la rivière pas loin qui se jette dans la mer aussi. Tout ça d'un bleu du ciel confondu avec un bleu de mer assez exceptionnel. Il fait beau aujourd'hui, on a dépassé les 32 ou 33 degrés. Mmh. Malgré ce qu'annonce Météo France, on est toujours au-dessus.
La petite pique
et
au passage.
Ce soir, ben non, mais tout va bien. Et puis ce soir, quand le soleil décidera de se coucher un petit peu, ben il y aura ce collier de diamants qui s'illuminera juste en face de moi, et ça sera Ajaccio qui prendra son habit de lumière. Voilà.
Faites attention parce que si vous continuez comme ça, on va tous débarquer chez vous et vous allez devoir nous payer l'apéro.
On va pas finir l'émission d'ailleurs.
Et j'ai de la bonne charcuterie et de la vraie.
Oh, pas dire
aucun souci.
Alors Patrick Fiori, vos origines sont donc corse, on l'a bien compris, mais plutôt par votre maman dont vous avez repris le nom. C'est ça?
Exactement, c'est ma maman qui est née rue de l'Assomption. En fait, c'est une des rues de la très vieille ville d'Ajaccio. Et puis oui, j'ai repris le nom tout simplement, le nom Fiori, parce que chouchayant à l'école, ça m'était un peu écorché. À chaque fois, j'étais obligé de lever le doigt avant qu'on m'appelle Choumachi, Chamichou, enfin bref, tout le monde se trompait.
Mais parce que chouchayant, c'était le nom de votre père.
Oui, c'est ça, exactement, c'est le nom de papa. Et puis voilà, bah, pour chanter, c'était un petit peu plus simple, Fiori que Chouchayan. Donc j'ai demandé l'autorisation au padré et il m'a dit, mais bien sûr, tu peux faire ça sans problème. Donc voilà, je porte le nom de jeune fille de ma mère qui est Fiori, mais sinon, mon nom, c'est celui de mon papa, mon nom de famille, c'est Chouchayan.
Alors on m'a dit que si vous avez grandi en Corse, c'est parce que votre mère ne se sentait pas bien à Marseille. Vous pouvez me raconter ça?
C'est exactement ça. En fait, l'histoire est un peu plus longue, mais je crois qu'on a un petit peu du temps. Papa était déménageur à l'époque et maman faisait des ménages dans les cages d'escalier, bref, pour subvenir aux besoins de la famille. Tous les deux travaillaient très fort. Et puis, je pense que la meilleure cliente de mon père, c'était ma mère au niveau des déménagements, parce qu'on a déménagé 19 fois.
Ah bon?
Ah oui.
Mais pourquoi?
Ouais, eh oui, je sais. Ben, tout simplement, je pense que ma mère était capricieuse. Et puis nous, on aimait bien refaire les tapisseries des appartements, en règle générale. Voilà, donc du coup, ben, ça nous a permis de pouvoir apprendre ce genre de travaux-là pour nos vies futures. Et puis un beau jour, au bout du 19e déménagement, ben, nous étions tous à table. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et ma mère s'est levée et a regardé mon père qui a des yeux bleus translucides, ce bel âtre arménien, et lui a dit « Jacques, mon amour, je souhaiterais rentrer chez moi ». Et donc mon père lui dit « Mais on est déjà chez nous ». Il a dit « Non, je veux rentrer en Corse chez moi ». Et donc 15 jours après, mon père, par amour bien évidemment, avec toute la marmaille, les 5 enfants, donc 7 avec les parents, Ben, nous a embarqué dans un gros camion et on est parti du côté de Cargèse. Et je vous parle de ça que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Il y a longtemps déjà. Donc voilà.
Et c'était le dernier déménagement. Après, vous n'avez plus bougé.
Ah non, on a bougé encore sur place aussi.
En Corse. D'accord.
Ah oui, je suis désolé. On a déménagé 3 fois. On a atterri à Cargèse. On est resté quelques années à Cargèse. Et puis juste après, pour des petits soucis de santé, bref, pour être un petit peu proche de la sécurité et des... Et d'un côté un peu vieillissant, comme tout le monde de mes parents, on a souhaité se rapprocher d'Ajaccio. Voilà. Donc on va dire qu'on en est à 19, 20, 21 déménagements. En gros.
Et alors, quels sont
là, ça y est, c'est fini.
Quels sont vos souvenirs d'enfance là-bas?
Oula, mais moi, mes souvenirs d'enfance, c'est entre deux endroits carrément magiques, magnifiques, avec beaucoup de caractère. Et quand je vous parle de Marseille, évidemment, on peut parler de caractère, de beauté. Et de bonté aussi. Et la Corse, c'est quelque chose d'exceptionnel, puisque on va dire que dès que j'ai commencé à parler, moi, je venais passer mes vacances ici, sans savoir que j'allais venir y vivre vraiment. Mais bon, Marseille, j'ai fait le tour. Je connais Marseille d'une manière, ben, comme un vrai bon Marseillais. Et la Corse, je l'ai découvert il y a de nombreuses années, mais j'en ai fait le tour aussi, que ce soit les rivières, que ce soit les lacs de montagne, que ce soit les bords de mer. J'ai complètement craqué. C'est-à-dire que ma mère nous faisait découvrir la Corse déjà quand nous étions tous dans nos chambres là-bas du côté d'Herbel à Marseille. Elle nous parlait tellement de ce pays-là qu'on avait l'impression que c'était l'histoire de notre vie. Alors quand on a pu rencontrer l'histoire de notre vie vraiment, on en est tombé amoureux tous, et moi particulièrement, la Corse.
Merci beaucoup Patrick Fioré. On va continuer notre balade encore dans un instant avec vous. On va partager les coins que vous adorez sur l'île de Beauté. À tout de suite sur Europe 1.
16h-18h. Et si on partait? Philippe Googler.
Et si on partait sur Europe 1? Je vous emmènerai tout à l'heure à 17h au Costa Rica, le pays vert à la nature luxuriante, débordante même. Mais tout de suite, on retrouve la Corse. La Corse. Ah, celui-là, vous avez dû l'entendre un paquet de fois. Hein.
Ah ouais, celui-là, ouais.
Avec nous.
À la fois.
Oui, allez-y, exprimez-vous sur Mama Corsica.
Non, mais allez-y. Je vous interromps pas, désolé.
Patrick Fiori est avec nous, vous l'avez compris. La Corse, si je vous demandais ce que vous appréciez dans ces paysages, qu'est-ce que vous nous diriez?
Écoutez, c'est déjà la plus proche des îles lointaines. Parce que la Corse, c'est à 35 minutes de vol de Marseille, à 1h30 de Paris, hein, pour essayer de situer un petit peu. Et puis, on dit de la Corse que le bon Dieu lui restait dans les mains un petit bout de terre de la planète entière, de tout ce qu'il y avait de plus beau, et qu'il a décidé d'ouvrir sa main et de jeter cette terre là au milieu de la Méditerranée. La Corse, c'est un bloc de granit dressé vers le ciel. C'est vraiment une prière, quoi. C'est un endroit majestueux, magique, ensorcelé parfois. Enfin, c'est assez particulier parce que vous décrire juste la Corse là, en vous en parlant, je peux vous dire que c'est une terre exceptionnelle, que ce sont des endroits qui sont uniques au monde, comme on pourrait découvrir à l'autre bout de la planète des petits bouts de terre où l'être humain n'a pas encore mis les pieds. Mais il faut savoir qu'ici ça existe aussi. En fait, là en Corse, quand vous vous perdez dans le maquis ou quand vous vous perdez dans les montagnes ou même les bords de mer, il y a des endroits où l'être humain n'a pas encore mis les pieds, donc c'est assez excitant. Et puis la Corse est sexy, elle est belle parce qu'elle regorge de couleurs, elle regorge de végétation assez intense, de désert, d'endroits rocailleux comme pas possible, avec des falaises vertigineuses, des endroits accessibles aux gens, qui sont assez époustouflants.
Mais bref, vous en parlez absolument merveilleusement, c'est, on vous écouterait pendant des heures, c'est incroyable.
Oui, On peut bien parler juste de ce qu'on aime vraiment. Et donc cet endroit, je l'aime vraiment. Quoi. Et avec ces gens.
Pour vraiment bien l'appréhender, s'il y avait un sens, est-ce que c'est l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, qu'est-ce qui pour vous, illustre le mieux la Corse? Un son, un bruit, une odeur?
Non, déjà, c'est un véritable dépaysement. C'est-à-dire que même qu'on arrive en avion ou en bateau, de toute façon, on n'a pas le choix, puisque de toute façon, il faut traverser la Méditerranée. Il y a quelque chose qui vous envahit déjà à presque 50 ou 60 kilomètres des côtes. Il y a l'odeur du maquis.
Ouais,
c'est-à-dire que vous
n'avez
pas vu la terre. Ouais, vous n'avez pas vu la terre que déjà,
ça sent
vous la
poisson.
Sentez. Et, non, ça ne sent pas le poisson du tout.
Ça sent les herbes aromatiques.
Ça sent le maquis.
La népita.
Ça sent l'immortel. Voilà, ça sent l'immortel. Et on se sent un peu comme ça dès qu'on y met un peu les pieds, en fait. Il faut faire attention.
Qu'est-ce que dans votre caractère, qu'est-ce qui est corse dans votre caractère, d'après vous ?
Écoutez, je pense que ma corsitude est aussi puissante que mon arménité. En fait, je pense qu'il y a vraiment un pont et une similitude.
Oui, puisque votre père est arménien.
Exactement, voilà. Et que ce soit dans les chants, que ce soit dans le respect, que ce soit dans les traditions, dans la manière de regarder les choses et regarder la vie.
C'est comment la manière corse de regarder la vie, c'est quoi ?
Ben, c'est les yeux grands ouverts, vous savez. Les nouvelles viennent jusqu'ici. Hein. La Corse, c'est une île, donc un'isola, une petite île. Et donc, on a juste se mettre au bord de la mer ou juste se mettre sur un rocher pour voir arriver les nouvelles, pour voir arriver les gens. Et c'est ça qui est exceptionnel. C'est-à-dire que on dit souvent des Corses, mais oui, ils sont pas pressés, ce sont des gens qui sont un peu nonchalants. Et je confirme. Je confirme parce que les nouvelles arrivent par l'air, les nouvelles arrivent par la mer. Donc, on prend le temps d'attendre la 7e vague et de l'accueillir comme il se doit.
Ouais. Nathalie ?
Oui, Patrick, est-ce qu'il y a des points communs entre le caractère corse et le caractère arménien ?
Oui, 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 oui. La détermination, la droiture, la gentillesse,
aussi.
La vraie, la profonde, pas la superficielle.
L'hospitalité, et puis, non ? L'hospitalité ?
Oui, l'hospitalité méritée, on va dire. L'hospitalité sans trahison.
Ah, il faut
quand
la gagner.
Les gens
hein.
viennent chercher des choses... voilà, c'est un peu ça, c'est un peu une étape importante, mais cette hospitalité-là, elle existe depuis toujours, et quand elle arrive à trouver un cœur, quand elle arrive à s'accrocher à quelques cœurs, elle est là pour l'éternité. Et ça, c'est exceptionnel, parce que ce sont des valeurs, pour moi, fondamentales.
Patrick Fiori, vous en parlez tellement bien que j'aimerais bien que vous restiez avec nous plus longtemps dans l'émission, vous êtes d'accord ?
Allez, ok, je reste avec vous avec plaisir.
Super, c'est super gentil. On va écouter votre disque, un air de famille, votre nouveau single, ok ?
Avec plaisir.
À tout de suite.
Finalement, tu t'en vas à 15 ou à 30 ans. C'est comme ça, tu crois partir devant. Mais là dans tes valises, ils sont avec toi. À chaque tournant, tu verras. Pour un oui, pour un non, tu rappelleras au moindre tourment. On l'a tous tiré au hasard, le jeu du départ. Et peu importe où tu iras, les sœurs et les frères, le chat, le boxeur, papy et grand-mère, tous nos êtres chers. Dans la famille, il y a toujours un absent, un secret, un amant, une guerre, un volcan. L'amour est si puissant, bien plus que le sang. C'est ceux qu'on choisit qui nous tiennent en vie. Et si parfois tu perds le nord, si ce soir tu n'as pas de frère ni de porc, ou bien si tu as froid, est-ce que tu es d'accord pour venir avec moi ? On a tous besoin de savoir, tabadabada, que l'on est chez soi quelque part. Dans la famille, il y a la mère et le père, ou deux pères, ou deux mères, ou 36 belles-mères, toutes les sœurs et les frères, un cousin boxeur. Nous être chers. Dans la famille, il y a toujours un absent, un secret, un amant, une guerre, un volcan. L'amour est si puissant, bien plus que le sang. C'est ce qu'on choisit qui nous tient en vie. Dans ma famille, il y a une terre et la mer, une table et des verres, des amis, des repères, des chansons, des galères. Viens là qu'on te sert dans nos bras ouverts. Dans la famille, il y a un moment, un départ, un enfant, ou c'est Dieu qui descend. L'amour est si puissant, bien plus que le temps. C'est ce qu'on choisit qui nous tienne en vie. Mmh.
il y a toi et moi, tu seras chez toi. Dis-moi, tu trouves pas qu'on a un air de famille? Mais quelle pagaille!
Le tout dernier single de Patrick Fiori, un air de famille.
Europe 1, Philippe Googler.
Patrick Fiori qui est avec nous en direct depuis la Corse. Vous nous en parlez avec délice, avec gourmandise depuis un moment. moi, j'aimerais savoir, Patrick, est-ce que... Alors, il y a un personnage célèbre en Corse qui s'appelle Napoléon. De quel œil vous le voyez là-bas, ce Napoléon ?
Écoutez, de toute façon, on ne peut pas le manquer. Il y a le musée, pour tous les gens qui seraient susceptibles de vouloir en savoir plus. Mmh. On peut déjà, évidemment, prendre connaissance de son histoire assez scabreuse, douloureuse et aussi merveilleuse. Et puis, on peut pas, vous savez, à Ajaccio, on ne peut pas le manquer. Napoléon est partout et à chaque coin de rue. Donc, on le salue.
Ouais. Nathalie, c'est un incontournable.
Mais... Oui, c'est un incontournable. Et d'ailleurs, j'ai très envie de vous raconter des choses de Napoléon qu'on ne connaît pas forcément. Et je dirais même que, Patrick, vous me faites un peu penser à l'empereur, là, en ce moment, tout de suite. Parce que vous avez dit que vous étiez amoureux de l'odeur du maquis. Eh bien, Napoléon, oui, lui aussi, l'était. Figurez-vous que, loin de son île natale, il affirmait que, au parfum de son maquis, de loin, les yeux fermés, il reconnaîtrait la Corse. Allez. Effectivement, c'est un pays embaumé par les exhalaisons des myrtes et des orangers. Mmh. Et d'ailleurs, Napoléon avait un goût immodéré pour l'eau de Cologne, probablement lié à cette nostalgie de son île natale. Il s'arrosait littéralement d'eau de Cologne qui contient, comme chacun sait, des huiles essentielles avec de la bruyère, du thym, de l'immortel, du cédrat, de la bergamote et de l'oranger mélangé à de l'alcool. C'est une formule très ancienne qui a été réinterprétée pour lui. Une formule du Moyen-Âge qu'un parfumeur a réinterprétée pour lui. Et alors, anecdote assez surprenante, figurez-vous que Napoléon transportait des rouleaux d'eau de Cologne, c'est-à-dire en fait des flacons d'eau de Cologne en forme de rouleau, dans ses bottes, histoire de les avoir partout sur lui, pour que son valet puisse le frictionner à l'eau de Cologne et se sentir revivre, ressusciter après une bataille.
C'est incroyable. Oui. Est-ce que les Corses, ils aiment Napoléon ou ils le regardent en biais? Comment c'est la relation, Patrick Fiori?
De toute façon, Napoléon est là. Ça a été un homme de pouvoir, un homme de main, un homme au grand cœur, un homme au cœur étrange aussi. Donc, c'est quelqu'un qui est là en permanence. Après, c'est un peu comme partout. Il y a ceux qui aiment Napoléon et ceux qui n'aiment pas Napoléon. Donc, à partir de là, il faut juste respecter les choix de chacun chacune. Mais quoi qu'il en soit, je crois que c'est un drôle de personnage qui peut nous servir ailleurs, même si on l'aime pas. Vous voyez, c'est-à-dire que quand vous vous baladez dans le monde et que vous dites d'où vous venez, ça peut arriver quand on rencontre des gens et qu'on a envie d'échanger, ils vont tout de suite vous dire Napoléon, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas connaître votre prénom et par contre l'endroit où vous vivez, ils vont savoir qui est celui qui est l'empereur. Quoi.
Mais moi, j'ai vécu pas très loin de Waterloo, voilà. Et je peux vous dire que tout le monde connaît cette ville aussi.
Napoléon aussi, je crois, la connaissait, oui, bien.
Nathalie.
Napoléon, il avait pas mal de petites manies et notamment une particulière, il était très superstitieux, comme beaucoup de Corses, hein, justement.
Comment ça, comme beaucoup de Corses?
Oui, ah bon, parce que... Je vois absolument pas du tout ce qu'on veut dire.
Alors, il croyait dans les présages, les démons, et puis dans la chance. Il détestait les vendredis et le chiffre 13. Il considérait que le 2 décembre, qui était la date de son couronnement en 1804 et de la victoire d'Austerlitz en 1805, c'était son jour de chance. Idem pour le 14 juin, victoire de Marengo en 1800. Bon, bref, et puis il se signait dès que les événements étaient soit bons, soit mauvais. Est-ce que vous aussi, Patrick, vous vous signez régulièrement?
On me signe. On me signe des contrats.
Vous
signez
des autographes aussi.
C'est pas mal.
Non, mais c'est ma tante. Non, mais je vous promets. Non, mais c'est. On me signe en fait pour enlever le mauvais œil. Donc il y a plein de trucs autour de ça. Il y a l'œil de Sainte-Lucie. Il y a d'aller voir des copines, des tantes, des voilà ceci, cela. Donc dans la famille, nous, on est pas mal spécialisé contre le mauvais œil. D'ailleurs, je vous invite à prendre rendez-vous tout de suite avec ma tata Lolo qui vous enlèvera
avec la tête creuse, l'huile d'olive dans l'eau, et on fait des exorcismes de cette façon. Et puis on va lutter. Et ben, en fait, il y a une très ancienne. Il y a beaucoup de divination, il y a beaucoup de superstition et un peu de sorcellerie, il faut bien le dire. Et c'est vrai qu'on dit qu'on enlève le mauvais œil avec une assiette creuse dans laquelle on met de l'eau et quelques gouttelettes d'huile d'olive. Et puis il y a tout un rituel. Mais Patrick connaît évidemment tout ça par cœur.
Vous vous faites enlever le mauvais œil régulièrement, tous les 15 jours?
Ah oui, oui, pratiquement, oui.
Non, mais sérieusement, sinon, sérieusement.
Ah, ça existe, le mauvais œil.
Et moi, je mange de l'huile d'olive.
Ah ben oui, ça existe, le mauvais œil. Surtout quand on fait de la chanson.
Non, mais attendez, sérieusement, tous les 15 jours, vous vous faites enlever le mauvais œil par votre tante?
Ouais, pratiquement, pratiquement. Déjà, ça me donne l'occasion de la voir. Et puis voilà. Et puis, on fait des métiers où on est très sollicité, et puis où on peut être. Enfin, voilà, il y a des envieux qui sont autour de nous. Je parle pour moi, mais je parle pour vous aussi. Ouais. Et puis, voilà. Donc, parfois, les gens qui sont envieux, même sans que ce soit méchant, peuvent nous faire porter un petit poids de quelque chose, de quelque chose de désagréable, avec une petite douleur dans le ventre, ou vous savez, c'est là où on commence à avoir un petit peu des états d'âme, où on commence à être un peu dans des moments un peu indélicats. Et donc, ce passage-là, alors, encore une fois, ça reste à prouver, mais ce passage-là reste très agréable. Et du coup, ben, nous donne la possibilité de pouvoir s'évader et de se dire qu'on se décharge de ce qui a été pas bon pour nous.
Ah ouais. Tout simplement. Et est-ce qu'il y a d'autres superstitions en Corse comme ça, Patrick
Fiori?
Oh là
là, mais il y en a plein de superstitions.
Par exemple.
Bon, après, il y a celle. Non, mais je pense que c'est celle qu'on peut retrouver ailleurs, c'est de ne pas se passer le sel à table, par exemple. Ouais. On ne se donne pas le sel dans la main, on le pose avant de le reprendre. Voilà. Et si on le renverse, eh ben, on prend un petit peu de sel et puis on le jette derrière soi. Pour que le mauvais soir, en tout cas pour que la dispute ou pour que l'action qui va se passer juste après ou une discussion, enfin pour pas qu'il y ait d'altercation. Donc il y a celle-ci, il y a aussi s'asseoir très souvent toujours jamais dos à une terrasse, toujours face à une terrasse.
Ah ouais.
Pour voir les choses arriver, pour voir les gens.
Ah, ça c'est du feng shui ça. Merci beaucoup Patrick Fiori, on vous garderait pendant deux heures, j'adore quand vous parlez de la Corse, mais on va vous libérer. Je rappelle que vous avez une actualité très très riche, le titre de votre nouveau single qu'on vient d'entendre, Un air de famille, donc qui est maintenant disponible, qui est formidable. Vous êtes en train d'enregistrer un nouvel album qui va sortir à la rentrée, vous vous lancez aussi dans l'écriture de livres pour enfants, vous avez inventé un personnage qui s'appelle Zino, et le premier tome sortira le 1er octobre et s'intitule Zino déménage. Merci beaucoup Patrick de nous avoir emmenés chez vous, c'était super.
Je vous souhaite une belle journée.
Bonne journée.
Et je vous remercie.
À très 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 bientôt. Dans un instant, on va casser la croûte avec Olivier Pauls. On va casser la croûte corse. Ah tiens, c'est un bon exercice. Casser la croûte corse, à tout de suite.
16h, 18h. Et si on partait? Philippe Googler.
Pardon, et si on partait? Ah, j'adore. On écoute, juste pour le plaisir, on écoute un peu. Nous sommes en Corse.
Ouais, il n'y a pas de doute.
Et alors, qu'est-ce qu'on mange en écoutant ça?
Oh, on pourrait manger plein de choses. La Corse, c'est vrai que c'est une terre extraordinaire de produits. C'est pas une terre ni de cuisine ni de chef, parce que j'ai cherché longtemps et je n'ai pas trouvé beaucoup de plats très typiquement corse. J'ai pas trouvé de chef corse qui ait marqué l'histoire comme de grands chefs français. Mais en revanche, qu'est-ce qu'il y a comme produit? Et c'est vrai que c'est une cuisine qui est très proche de la nature, qui est très proche des produits, qui est très inspirée évidemment de l'Italie. Et vous savez, l'Italie, c'est un petit peu la même chose. C'est une cuisine de transmission orale, de génération. On apprend les recettes de mère en fille, de père en fils, de grand-père, etc. Et c'est une cuisine qui n'est pas très codifiée, contrairement à la cuisine française.
Il y a quand même un truc, on me dit Corse, moi je dis tout de suite saucisson d'âne.
Ah.
Et en même temps, je me dis, mais attends, saucisson d'âne, ça veut dire qu'on a découpé un âne pour en faire du saucisson? Non, c'est vraiment des ânes.
Non, en fait, si vous allez en Corse et que vous cherchez des saucissons d'âne, vous risquez de chercher bien longtemps, parce que c'est une espèce de légende, une légende pour touristes.
Ah, c'est une arnaque, en fait. Ouais.
Exactement. Et si vous voyez des saucissons d'âne vendus comme tels sur les marchés et que vous les achetez, vous allez bien faire rigoler ceux qui vous les vendent, parce que bien évidemment, il n'y a pas d'âne là-dedans. Les Corses utilisent des ânes, ce sont des animaux de trait, ils aiment leurs ânes et ils ne les mangent pas.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
À dire, Nathalie?
Non, je voulais juste dire une bêtise, comme d'habitude, que la saucisse de Morteau, c'était 20 cm de bonheur. Celle d'Anne, c'est peut-être 40 cm.
Nathalie!
Oh, c'est dit!
Oh, bah écoutez, hein.
Mais Nathalie,
soyons fous!
Moi, je pensais qu'elle avait un truc à raconter sur l'histoire de la charcuterie.
Oh, ça va venir. Je me chauffe.
Mais oui, c'est, je vois.
Mais alors, une fois qu'on a oublié ce saucisson d'Anne, on va s'intéresser à la charcuterie. Parce que la charcuterie corse, à condition d'en avoir de la vraie, de la bonne, de l'authentique, c'est quand même vraiment quelque chose. Et elle le doit à quoi? Elle le doit à un port particulier, qu'on appelle le Porcus Nostrale là-bas.
Le Porcus Nostrale.
Exactement. Et c'est un port qui est originaire de Corse, qui est indigène, qui a bien failli disparaître. Il faut savoir que dans les années 60 et 70, il n'y en avait plus que quelques centaines de têtes. On a mis en place un programme pour le remettre en circuit, pour le multiplier et pour le préserver en quelque sorte. Alors aujourd'hui, je crois qu'on est entre 1400 et 1500 têtes.
Est-ce que c'est les cochons qu'on voit se balader sur les routes souvent?
Souvent,
en Corse.
Bien sûr. Ouais. Vous savez, c'est un cochon noir. C'est un petit cochon noir qui est rustique, qui résiste évidemment au climat corse, hein, qui peut être chaud.
Qui est un peu
froid,
dangereux dans les virages la nuit. Hein.
Ah, il vaut mieux faire attention parce que comme il est tout noir et qu'il n'a pas de gilet jaune, voyez-vous, pour se manifester.
C'est agressif, non, ces bestioles.
Oui, c'est un cochon qui a plus peur que. Alors, évidemment, il ne faut pas le chercher non plus. Mais il a une autre particularité, c'est qu'il n'a pas de queue en tire-bouchon, voyez-vous, comme tous les cochons.
Oui,
il a une petite houppette.
C'est vraiment.
Voilà. Et c'est ce cochon.
Nathalie, un commentaire peut-être?
Rien à ajouter.
Voilà. Et c'est ce cochon particulier et typique qui donne naissance à des charcuteries qui sont extraordinaires. Ce sont des savoir-faire ancestraux. Et là, quand vous avez la chance d'avoir ce fameux porc corse et des gens qui savent mettre en œuvre ces charcuteries, vous avez quelque chose d'extraordinaire. Prenez par exemple le lonzo, qui est le filet du porc qui était séché. Prenez la coppa, un morceau un peu plus gras, c'est de l'échine. Et puis les fameuses figatelles.
Ah, c'est bon ça.
Voilà.
Qu'est-ce que c'est les figatelles?
Alors c'est une saucisse à base du foie de porc qui peut se manger froide ou qui peut se manger chaude. Ça s'est épicé, ça s'est relevé, c'est absolument délicieux. Mais attention, malheureusement, il y a en Corse beaucoup de contrefaçons sur la charcuterie et l'honnêteté me doit de dire que vous devez faire très attention parce que les Corses sont parfois un petit peu filous quand même et qu'il y a énormément de porcs qui sont achetés à l'extérieur de Corse, y compris dans les pays de l'Est ou en Bretagne, qui arrivent sur le territoire, qui sont transformés en charcuterie et qu'on vous vend volontiers pour de la charcuterie corse.
Ah, parce que ça a été fait en Corse?
Et oui, mais
donc,
transformé en Corse, c'est ça.
Et voilà, mais ce n'est pas, ça n'a rien à voir en termes de qualité.
Donc
Nathalie,
on vérifie s'il a la houppette ou pas à côté du
alors,
paquet.
Le problème,
quoi,
c'est qu'une fois qu'il est transformé en saucisson, c'est difficile. Mais surtout, on va voir des artisans ou des charcutiers en qui on peut avoir vraiment confiance et on évite.
Mais la mention charcuterie corse est possible dans ce cas-là?
Alors, elle est protégée, mais bon, c'est comme pour tout. Il y a des petits malins qui s'amusent évidemment à essayer de vous faire passer du porc breton ou du porc hollandais pour du porc corse.
Un petit verre pour finir?
Alors, un petit verre, mais juste avant, il y a un autre produit dont je voulais absolument vous parler, c'est un fromage.
Ah oui.
Le casgui ou merzou, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce fromage?
Ouais, je l'ai
trouvé également en Italie, en Sardaigne. Particularité de ce fromage, il est rempli de petits verres. Vous le coupez.
Il est habité.
Et il est habité. Vous avez l'impression de couper dans une HLM. Vous savez, il faut le goûter une fois dans sa
vie. Et on mange les verres.
Et on mange les verres, évidemment. Alors, il n'y a pas de danger.
Ça gigote dans la bouche.
Ouais, ça, c'est un peu spécial. Moi, je l'ai mangé une ou deux fois. Je vous avoue que c'est un peu particulier.
Ça reste long en bouche.
Ouais, ouais,
c'est viande et fromage dans la même assiette. Quoi.
Et pour arroser ça, évidemment, les magnifiques vins corses. Je vous ai parlé tout à l'heure du muscat du Cap Corse, mais il y a beaucoup de vins blancs et rouges d'une typicité vraiment remarquable grâce à des cépages locaux et grâce à de nombreux vignerons qui, depuis une vingtaine d'années, ont vraiment redynamisé le vignoble corse. Je pense au Clos Canarelli, à Lecce, à Arena, et puis à cette bouteille du domaine Vacelli que je vous ai apporté, qu'on va partager pour la suite de l'émission. Et ça, c'est vraiment, quand on dit ça sent la garrigue, ça sent la Corse, bah, regardez. Humez votre verre.
Merci Olivier Pouls. Et si on partait sur Europe 1 chaque jour entre 16h et 18h, on part ensemble comme ça pour des destinations de rêve. En Corse actuellement, tout à l'heure, après 17h, je vous emmènerai dans le Pays Vert, le pays d'une biodiversité extraordinaire avec des jungles, des cascades, des plages magnifiques. Tout ça dans un pays extrêmement paisible, la Suisse de l'Amérique centrale. Nous retournerons en Corse dans un instant avec les bons tuyaux de Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet. A tout de suite.
Europe 1, Philippe Googler.
Et si on partait, on est ensemble jusqu'à 18h. Tout à l'heure, nous partirons au Costa Rica. Pour l'instant, nous sommes avec les cigales de la Corse et surtout avec Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet qui va nous donner les bons plans pour bien profiter de ce voyage dont on rêve tous. On veut tous aller en Corse à un moment ou un autre de sa vie.
Oh, complètement, je confirme. Moi, ça fait 20 ans que j'y vais. À peu près en moyenne une fois par an, je laisse faire le total. C'est vrai que j'ai développé avec le temps un lien affectif. Cette île, il y a quelque chose de charnel, de viscéral qui se dégage.
Ouais, c'est vrai.
C'est sexy, disait Patrick Fiori. Hein.
On touche à quelque chose qui dépasse la raison. C'est vraiment une île qui entretient quelque chose de très fort, de passionnel.
Absolument. Et alors, c'est difficile de choisir son coin parce que la Corse, c'est pas très grand, mais en même temps, c'est très différent selon les endroits. Vous êtes plus montagne, petite crique.
En fait, il y a énormément de territoires différents et chacun a sa personnalité et son relief. Alors moi, j'avoue, je suis un fan, un inconditionnel du Cap Corse. Vous savez pourquoi? Parce que
c'est
l'île dans l'île. C'est l'île dans l'île, le Cap Corse. Cap Corse, c'est ce doigt qui est pointé vers le continent, tout au nord de la Corse. Alors c'est pas très grand, ça fait 80 km si l'on fait le tour. Généralement, quand j'arrive, c'est arriver à Bastia, je loue une voiture à l'aéroport et je file plein nord et je fais le tour du Cap Corse. Je prends à peu près 2 ou 3 jours et il y a une ambiance différente.
À chaque fois, vous faites ça?
Ah, je le fais. J'ai besoin. Pour moi, c'est un rituel presque de faire le tour du Cap Corse. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais j'irai plusieurs fois dans une région, je ne ferai pas à chaque fois la même chose.
Il y a quelque chose dans ce Cap Corse, parce que le reste de la Corse est très montagnard, c'est un pays de montagnards. Le Cap Corse, l'ambiance est un peu différente, c'est une terre de marins et de pêcheurs, et ça se ressent quand on fait le tour de ce Cap Corse. Après, j'aime bien aussi la route qui fait le tour, cette fameuse D80 qui fait le tour du Cap. Sur le versant ouest, elle est en corniche, et là, vous avez des points de vue absolument exceptionnels sur la côte. C'est pour moi l'une des routes les plus pittoresques de l'île. Ouais. Et puis, il y a aussi une étape gastronomique et culinaire, là, je m'adresse à Olivier.
Oui,
la spécialité de pâte à la langouste, c'est dans le port de Chenturi, tout au nord du Cap. C'est vraiment là qu'il y a des pêcheurs qui vont encore récolter des langoustes au large. On peut les voir arriver le matin, on peut discuter avec eux, les barques sont colorées.
Choisir sa langouste?
Peut-être pas parce qu'ils la vendent au restaurant bien plus cher, mais c'est une étape incontournable. J'adore ce petit port de Chenturi, c'est très typé, c'est très coloré. Il y a beaucoup de caractère et j'aime ça.
Ah oui, on sent que vous avez aimé, hein, il s'est passé quelque chose. Et alors, les petits villages corses, il y en a vraiment. Moi, j'adore, c'est dans la montagne. Je préfère la montagne à la mer, là-bas, en Corse. Mais le problème, c'est de choisir son village. Ils sont tous adorables. Alors, vous allez où, vous?
Alors, moi, je vais en Balagne. La Balagne, c'est l'arrière-pays de Calvi, si on veut localiser. Et là, il y a un village, allez, je vous le dis, c'est Pigna, dans l'arrière-pays de Calvi. Pigna, qu'est-ce qui s'y passe? C'est un village d'artistes, un côté un peu bohème, c'est un village qui a été rénové. Alors, il y a des flûtiers, des céramistes, des peintres. Et l'autre attrait de Pigna, je vais vous le dire, c'est la musique. Il y a un auditorium dans le village qui a été intégralement rénové, c'est tout en pierre. Et on peut écouter une musique qui prend aux tripes, c'est celle-là. Ça, c'est la musique du groupe Avilette. C'est des stars en Corse, des stars du chant polyphonique corse. Moi, ça me prend aux tripes. L'âme corse s'exprime à travers ces chansons-là. En plus, quand vous êtes dans un village corse, vous assistez à ces représentations polyphoniques, eh ben, j'ai les larmes aux yeux, tout simplement.
Et les jeunes s'y mettent, hein. C'est pas un truc d'ancien. Hein.
Exactement, les jeunes reprennent cette tradition du chant corse. C'est pas du tout folklorique. Ils chantent pour eux. Et de les voir, tous ces jeunes, habillés tout en noir, cette gravité, cette concentration lorsqu'ils expriment cette passion du chant corse, eh ben, vous êtes dedans.
Moi, ça me déprime. Il faudrait au moins 2 langoustes pour m'en remettre.
Olivier a un petit remontant, donc je pense que ça ira.
Est-ce qu'il y a des femmes qui le chantent?
Oui, il y a des femmes qui s'y mettent. Alors, beaucoup moins que les hommes, mais ce n'est pas quelque chose qui est réservé uniquement aux hommes. Oui, il y a des femmes corses qui se mettent au chant corse, ouais, tout à fait.
Alors, côté plage, il y a une place que j'aime bien, c'est la Palombagia ou Dia, je ne sais pas comment on dit.
Palombagia.
Palombagia. Bon, après, elle commence à être très connue. Vous avez des petits endroits secrets?
Alors, Palombagia, c'est vrai, c'est la grande star. Hein. Alors, pour parler de sexiness, celle-ci, elle est vraiment le top. Mais j'aime bien découvrir, faire les petits pas de côté, trouver des petites pépites. Alors moi, j'aime beaucoup aller dans le sud-ouest de la Corse. Il y a une route, la D48, qui s'achève en cul-de-sac à Tizzano. C'est un petit village. Vous pouvez louer un petit bateau à moteur. Et avec ce bateau à moteur, sans permis, même pas besoin d'avoir un permis, vous longez toute la partie sud-ouest du littoral. Il y a toute une succession de petites criques. Aucune de ces criques n'est accessible en voiture. Il n'y a pas de route. Donc, il y a seul moyen d'y accéder. C'est la mer, c'est-à-dire qu'il n'y a personne. Vous êtes tranquille. Et on se croirait plutôt aux Seychelles ou aux Caraïbes qu'en Méditerranée, tellement l'eau est cristalline.
Turquoise.
Ah, c'est une merveille. Surtout ne pas oublier, bien sûr, Olivier.
Son maillot de bain.
Alors, vous êtes obsédé pour le maillot de bain.
Est-ce qu'on en a vraiment besoin d'un maillot
de bain? À chaque fois, Olivier fait le coup. Il faut un maillot de bain. Mais surtout,
Jean-Bernard, il faut vraiment un maillot de bain si on est tout seul.
On peut faire du naturisme, c'est sûr. Il y a peut-être des fois quelques voilier qui passe un petit peu au large. Non, surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la glacière avec du fromage, quelques bons produits corses. Et on se fait un petit pique-nique à Spuntin, ou comme ils disent là-bas, sur la plage.
Une petite dernière ?
Un petit site naturel que j'aime bien, pareil pour se couper du monde. C'est le plateau du Couchonne. Pas de la cochonne, mais du Couchonne.
Hein.
Je précise bien quand même. C'est vraiment une petite steppe mongole qui est enchâssée au cœur de l'île, à entre 1000 et 1500 mètres d'altitude. C'est la rupture complète avec la civilisation.
Merci beaucoup Jean-Bernard. On a envie de partir là, c'est super. Merci beaucoup les amis. Je vous propose maintenant qu'on reprenne notre souffle. Après ce bonheur en Corse, nous allons aller encore plus loin. On va prendre notre élan. On s'élance pour la deuxième heure de « Et si on partait ?». On va décoller, traverser l'Atlantique pour le pays vert, le pays des jungles luxuriantes, des plages splendides également. C'est le pays apaisant par excellence. Il fait partie des lieux où l'on vit le plus vieux au monde, le Costa Rica, dans un instant, juste après le flash. Et si on partait sur Europe 1 tous les jours entre 16h et 18h ? C'est le moment de tout oublier, de lâcher prise, de partir au bout du monde, là, tout de suite, maintenant, sans réfléchir. Attention, décollage, tout de suite.
16h, 18h, et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait aujourd'hui dans un pays qui a compris que son trésor, son bien le plus précieux, c'était la nature ? On dit là-bas que c'est la terre de la vie pure, la pura vida. C'est un pays où plus du quart de la surface du territoire est constitué de parcs, de réserves, de jungles protégées, de volcans actifs, de plages préservées. C'est un pays pacifique, sans armée, où les deux couleurs qui dominent sont le vert de la nature, le bleu des océans, d'un côté l'Atlantique, la mer des Caraïbes, et de l'autre le Pacifique. Je vous emmène au Costa Rica. Dans cette nature luxuriante, il y a quand même des habitudes de vie surprenantes. Il y a un épisode qui m'est arrivé sur un tournage des trains pas comme les autres. J'étais le long d'une voie ferrée en pleine forêt, a priori une voie utilisée par quelques rares trains de marchandises. Et tout à coup, j'aperçois de loin un petit groupe de 3 personnes qui font glisser sur les rails avec 2 bâtons une sorte de planche qui a des roues. Et la planche glisse sur les rails. Et sur la planche, il y a une vache. Une vache avec les pieds attachés, couchée sur le flanc. Alors je leur demande ce qui se passe, évidemment. Alors, c'est une petite famille d'éleveurs. Il y a la mère, le père, le fiston. Ils me disent, on pense qu'elle est malade, elle a un problème intestinal, on ne sait pas trop ce qu'elle a. Donc on l'emmène chez le vétérinaire. Alors la question c'est pourquoi quand même sur cet engin bizarre ? Eh bien ils me répondent qu'ici dans cette région il y a peu de routes et qu'ils sont obligés de suivre la voie ferrée. Comme la vache est malade, elle marche mal. Donc avec les rails, les traverses, les ponts pour elle c'est trop compliqué. Donc ils sont obligés de la pousser comme ça. Donc je les suis un peu et on part en direction d'un pont qui est plus loin. Et là, tout à coup, la propriétaire de la vache pousse un grand cri. Un train ! Il y a un train qui arrive ! Donc en gros, on est en train de pousser une vache malade sur une voie ferrée sur laquelle roule un train de marchandises de plusieurs milliers de tonnes qui nous fonce dessus. Donc la situation est quand même assez inédite. Alors évidemment, il faut faire quelque chose. On entend le klaxon au loin qui est très clair, hein, faut décamper. Mais décamper, ça veut dire, un, soulever la vache tant bien que mal, et une vache, ça pèse quand même son poids. 2, la déposer sur le côté en essayant de ne pas la blesser sur les cailloux du ballast parce que c'est pointu. Et 3, soulever le véhicule qui la transportait, et là aussi, il pèse son poids. À mes yeux, moi, tout ça prend un temps infini. J'ai l'impression qu'on n'y arrivera pas. Donc j'essaye de donner un coup de main, mais bon, ça part un peu dans tous les sens. Et je vois, moi, les phares du train, les phares blancs, des gros phares blancs qui approchent, et le conducteur de la loco qui fait rugir son klaxon. À mon avis, il est sans doute très inquiet. Donc je suis complètement en stress, mais les propriétaires de la vache, eux, sont très à la cool. Visiblement, pour eux, dégager une voie ferrée en urgence pour laisser passer un train, c'est une activité assez ordinaire. Donc voilà, je regarde tout ça un peu étonné. Et le train est à 100 mètres. Donc moi, j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure, mais les choses se font. Et la vache est déposée sur un coin d'herbe à proximité de la voie. Et les propriétaires rigolent. et le fait que je sois stressé les amuse beaucoup et ils se fichent de moi. Et le mari me raconte que la dernière fois, j'ai eu bien plus peur parce que j'étais dans un virage et j'ai pas entendu le train arriver. Et j'ai à peine eu le temps de sauter de la planche, le train est arrivé, il a tout cassé. Voilà. Mais tout ça en rigolant. Donc on est là, au bord de la voie, on regarde passer le train. La petite famille salue le conducteur qui visiblement en a vu d'autres. C'est un énorme train de marchandises qui fait un vacarme épouvantable. La scène est surréaliste. Et une fois le convoi passé, tout le monde se remet en selle, planche sur les rails, vache sur la planche. La vache est toujours très silencieuse, je pense qu'elle est bien malade. Et moi, ce que j'ai adoré dans cette rencontre complètement improbable, c'est surtout le plaisir qu'avaient ces éleveurs à me montrer que même dans une situation difficile, ils s'en sortaient et que quand on était en famille, avec un bon sens de la débrouille et de la volonté, on y arrivait, même à sauver une vache en pleine forêt et tout ça dans la bonne humeur. Et ben moi, je trouve que ces moments-là, finalement, c'est des vraies petites leçons de vie.
16h-18h, et si on partait ? Philippe Googler.
Et si on partait sur Europe 1, tous les jours un grand voyage avec toute la bande, Nathalie Hélalgue, auteure, grande voyageuse, avec Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet.
On est avec vous Philippe.
Avec Olivier Pouls.
Valise prête.
Toujours, vous ne la défaites jamais, c'est comme un placard chez vous en fait.
Tout l'été elle sera prête.
Et en direct du Costa Rica, un Français, un bienheureux. Paris parti s'installer là-bas en 1984. Vous y avez été enseignant pendant très longtemps, puis guide. Et vu que vous êtes resté là-bas depuis tout ce temps, c'est que ça doit sacrément vous plaire. Jean-Christophe Bourg, bonjour.
Bonjour, bonjour Philippe.
Vous êtes au Costa Rica en direct avec nous. Il est quelle heure là-bas ?
Bah écoutez, il est 9h. 9h du matin.
Ah oui, donc c'est
il y a 8h de décalage, je crois.
On vous a privé de grasse matinée, donc.
Non, je vous entends un peu mal. Hein.
On va régler ça, ça va venir tout doucement, vous inquiétez pas. C'est à la costaricienne, on y va tranquillement. Vous êtes où exactement ?
Bah écoutez, je me trouve à l'entrée du parc national Chiripo, qui est au pied de la plus haute montagne du Costa Rica, en fait, d'Amérique centrale jusqu'au Guatemala.
Et qu'est-ce que vous voyez ?
Bah écoutez, je vois les... Je vois la forêt qui pousse parce que j'ai acheté cette terre il y a 30 ans. C'était une friche et j'ai laissé la nature reprendre ses droits. Je suis situé entre deux rivières et donc eh bien les arbres, enfin, la nature est revenue d'elle-même.
Alors quand on dit la nature qui pousse au Costa Rica, il faut faire attention, c'est très luxuriant là-bas. Quand ça pousse, c'est vite énorme, c'est vite envahissant. On est toujours à deux doigts de la jungle.
Absolument. Bah, écoutez, on peut penser à 20 ans pour avoir une forêt à peu près, ouais. À peu près correcte.
C'est pas beaucoup. Ouais. Alors,
c'est pas beaucoup.
Il y a quelque chose que je trouve très attachant dans ce pays, ce sont les gens. Et il y a une expression qui est assez révélatrice de ce qu'ils sont. C'est que là-bas, pour se dire bonjour ou au revoir ou comment ça va, on se dit pura vida, ce qui veut dire pure vie. C'est pas un truc qu'on dirait chez nous. C'est très marrant. C'est quoi la signification exacte ?
Écoutez, ça vient d'un film mexicain qui a été projeté en 1956 au Costa Rica, où l'acteur principal répète cette phrase trois fois dans le film. Et donc, ça, c'est exponentiel, les gens commençaient à l'adopter, et maintenant, c'est devenu vraiment le label du Costa Rica. Vous savez qui a prononcé cette phrase ? C'est Zidane, pour la troisième coupe mondiale du football. Pour rendre hommage à son gardien de but qui s'appelait Keylor Navas, enfin qui a changé l'équipe maintenant, mais pour le Real de Madrid, il a prononcé cette phrase aussi. Voilà, mais c'est devenu vraiment l'emblème, enfin le refrain un peu que tout le monde dit ici pour dire bonjour, merci, ça va. Enfin, c'est très 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 positif.
Et c'est en lien avec la nature, pure vie. On dit pure vie pour dire bonjour, c'est étonnant.
Non, pas
ça.
Exactement, non, pas vraiment.
C'est un peu le carpe diem.
Ça peut être. Comment ?
C'est un peu le carpe diem local.
Oui, tout à fait. Oui, c'est comme un label, ça représente le pays à l'extérieur.
Alors, c'est utilisé. Ce qui est très, très étonnant au Costa Rica, c'est que c'est un pays pacifique qui n'a plus d'armée depuis 1949.
Oui, en fait. José Figueres Ferrer, qui est devenu le président de la République par la suite, a donné un coup de masse sur le cartel, c'est-à-dire sur la caserne à l'époque. Et dans ce geste, il a donc aboli complètement l'armée. Donc depuis ce temps-là, il n'y a plus d'armée. Et donc tout ce qui est budget qui était consacré à l'armée a été dirigé sur l'éducation principalement, et puis sur les moyens de télécommunication, l'électricité, tout ça. C'est un progrès pour le pays dans un moment où la guerre faisait rage autour. Hein. Vous vous rappelez les épisodes du Nicaragua, par exemple, tout ça. C'était une époque très, très compliquée. Et lui, c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement habile au niveau politique qui a su négocier le moment, et donc il abolit l'armée. C'était très contesté à l'époque.
Ça paraît incroyable tout ça, parce que pas d'armée, une nature incroyable, une relation à la nature très particulière. On dirait que c'est une sorte de petit paradis. Comment ça se passe, la relation avec la nature dans ce pays? Comment les gens voient la nature? De quel œil?
Bien, écoutez, les gens étaient assez destructeurs de la nature jusque à la fin des années 80, hein, le pic de destruction des bois, ça s'est fait en 87. À partir de 90, autour des parcs se sont établies des zones tampons. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens, de fondations, qui sont venus acheter de grandes extensions de terre et ont laissé repousser la forêt. Comme la forêt a repoussé, eh bien c'est passé, enfin, à ce moment-là, en 87, je crois que c'était 25% simplement du territoire qui était boisé. Et maintenant, on en est presque à 45%. C'est-à-dire que la relation des gens avec la nature, ils sont sensibilisés à la nature. Ouais. Les gens, il y a des amendes pour les gens qui jettent une bouteille, qui jettent des cochonneries. Enfin, il y a quand même quelque chose. Les gens ont une mentalité maintenant qui est très, très, très écologiste.
Ouais, c'est vrai. Et moi, ce qui me fascine, c'est aussi les plages, parce qu'il est très difficile d'avoir l'autorisation de construire à moins de 200 mètres de la mer, ce qui donne des plages incroyables, immaculées sur des centaines et des centaines de mètres. C'est vraiment un très beau pays. Jean-Christophe Bourg, vous restez avec nous. Vous êtes en direct du Costa Rica. Et ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que c'est sans doute un des endroits où l'on vit le plus vieux au monde. Et ça, c'est étonnant. On en parle dans un instant sur Europe 1.
Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait sur Europe 1 chaque fin d'après-midi entre 16h et 18h, un grand voyage. Aujourd'hui, le Costa Rica. Installez-vous, respirez et partez. Et sur cette planète, il y a ce qu'on appelle les zones bleues. Et ça, c'est super intéressant. Les zones bleues, ce sont les endroits du monde où, officiellement, on vit plus longtemps qu'ailleurs. Et il y en a une au Costa Rica qui s'appelle la péninsule de Nicoya. Eh bien, tenez-vous bien, là-bas, les habitants ont 10 fois plus de chances de devenir centenaires qu'en Europe ou en Amérique du Nord. Et j'y ai fait une rencontre très touchante. Ça se passe en pleine campagne, il fait chaud, le soleil tape, l'herbe est rousse, brûlante, desséchée par le vent. Et sur un chemin caillouteux, je croise un monsieur à cheval qui avance très lentement. Alors je vais vers lui et je lui demande « Mais vous allez où comme ça ?» Et il me répond « À l'anniversaire d'une copine. » « Et pourquoi vous y allez à cheval ?»« Eh bien parce que je ne peux plus conduire et puis je suis habitué à monter à cheval. Ça fait plus de 20 ans qu'il m'emmène. » Et là, je sens qu'il faut que je lui demande son âge, et il me répond « 104 ans ». Là, je vous avoue que c'est quand même un choc, parce qu'un homme de 104 ans sur son cheval, c'est pas tous les jours. Et il y a une deuxième surprise. Sa copine, celle à qui il va souhaiter bon anniversaire, elle va avoir 100 ans. Donc j'ai en face de moi un homme à cheval de 104 ans qui va fêter l'anniversaire d'une copine qui a 100 ans, ça c'est quand même pas mal. Et je dis à Don Pazito, c'est son nom, je lui dis que je trouve ça incroyable, mais lui, il comprend pas, il me répond « Qu'est-ce que tu trouves incroyable? Tu vas pas à l'anniversaire de tes copines, toi ?» Donc voilà, donc gros éclat de rire, et puis il m'invite à l'anniversaire. Arrivé à la maison de son ami, il me demande un coup de main pour descendre de son cheval. Et là, je comprends, parce que j'avais vu un Don Pazito plutôt à l'aise sur sa monture, mais tout à coup, je me rends compte que je vais quasiment devoir le porter. J'ai dans mes bras un petit corps tout frêle, tout léger, tremblant à l'idée de devoir tout à coup se poser sur ses jambes. Et j'ai même peur de lui faire mal. Donc je le pose
délicatement sur le sol et là, il a bien du mal à marcher et il va m'avouer que son cheval remplace ses jambes, en fait. Dans la maison, c'est ambiance tranquille, musique, petit orchestre, une vingtaine de convives et surtout, il y a la copine de Don Pazito qui s'appelle Dora. Alors Dora, elle est plutôt petite avec des yeux rieurs, elle semble toute minuscule devant un gros gâteau rose orné du chiffre 100 et de quelques bougies. Dora et Don Pazito se font la bise, ça papote autour des jouets des peines d'être centenaire. Donc ça parle douleur, de la vue qui est un peu faible, mais que le moral est bon. Et puis il y a Don Pazito qui précise qu'il en reprendrait bien pour 20 ans pour profiter un peu plus de la vie. Donc l'ambiance est plutôt bonne. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'autour de la table, il y a quand même 4 centenaires et leur famille. Donc j'interroge un peu tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on vit aussi vieux dans la région ? Alors les réponses fusent. Il y a quand même des grands principes. Il y a un, la bonne nourriture. Ici, on mange local et souvent du jardin avec beaucoup de haricots noirs, de courges, de maïs, de patates douces et de fruits. Il y a le lien, et ça tout le monde en parle, de la vie générale, il y a une grande sociabilité. Les familles sont très unies et vivent ensemble, toutes générations confondues. Les aînés ne sont jamais seuls. Et puis, troisième point qui revient, c'est que les personnes âgées gardent en général une activité, un travail à leur rythme, mais très longtemps, en étant toujours intégrées. Alors, j'avais pas trop remarqué, mais pendant que je bavardais avec les convives, Don Pazito était tout simplement en train de draguer Dora. De draguer à l'ancienne, et il y a une phrase très mignonne que j'ai captée, et je vais finir là-dessus. Il lui a dit « Hier soir, j'ai rêvé de toi, j'ai vu deux lunes qui me regardaient. Eh bien, je crois que c'était tes jolis yeux qui me regardaient. » Et il l'embrasse sur la joue.
Et si on partait sur Europe 1 ? Deux heures d'évasion avec Philippe Googler.
Ah, ils étaient adorables. Adorables, les deux. Et voilà, nous sommes donc au Costa Rica, dans un pays, un des pays où l'on vit le plus vieux au monde. Et toujours en direct avec nous, Jean-Christophe Bourg, qui est français à l'origine, qui vit là-bas depuis 1984, ça fait une paye.
Qui a 104 ans, lui aussi. Donc.
Vous avez quel âge maintenant ?
Bah écoutez, j'aurai cette année 65 ans.
Et vous misez sur. Vous visez combien ?
Bah, 104 ans.
Oui, bah c'est la moyenne là-bas, c'est même pas très ambitieux. Alors, le Costa Rica, c'est un pays très, très religieux, on y est catholique, et la patronne du pays, c'est Notre-Dame des Anges, la Vierge qui trône dans la basilique de Cartago, l'ancienne capitale du Costa Rica.
Oui, vous l'avez vu ?
Oui, je l'ai vu là-bas. Et c'est bien là-bas qu'on vient prier à genoux hein, depuis de longues distances.
C'est-à-dire qu'il y a un pèlerinage tous les ans, le 2 août. Hein, ça finit le 2 août à la basilique et les gens arrivent à l'église et donc vont de la travée, enfin parcourent la travée à genoux jusqu'à l'hôtel. Oui.
Et comment ils ont fait pendant le confinement ?
Bah écoutez, au confinement, au début du confinement, je crois que c'était le 22 mars, ils ont envoyé la Vierge et puis le diacre au-dessus de survoler le pays, donc survoler le pays pour bénir et protéger les habitants du Costa Rica.
Comment ça, la Vierge s'est envolée ?
Oui. Mais normalement, traditionnellement, elle se baladait en voiture dans les villages après le pèlerinage. Et ça, c'est le 2 août. Donc on n'est pas arrivé encore au 2 août. Et là, je pense que le pèlerinage va être un petit peu difficile. Ouais.
Donc elle a survolé, rassurez-moi, elle n'a pas volé de ses propres ailes, elle a volé en avion au-dessus du pays.
Non, en avion. D'accord, en avion. Le miracle a déjà été fait au temps de l'époque espagnole.
Merci beaucoup, Jean-Christophe, d'avoir raconté votre Costa Rica en direct depuis là-bas. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, parce que la journée ne fait que commencer là-bas.
Un bon petit déjeuner.
Écoutez, je vous envoie un grand bonjour à toute la France de San Gerardo de Rivas.
Merci beaucoup. Bon petit déj. Au revoir, les amis. On reste ensemble dans un instant. Une face moins connue du Costa Rica, plus mystérieuse, l'étonnant mystère des sphères. Las Bolas, on les appelle là-bas. Il y a même une ville qui s'appelle Las Bolas, les boules. Nathalie est là, nous raconte tout dans un instant.
Et si on partait sur Europe 1 dans un instant, l'étrange mystère. C'est vraiment un mystère, c'est presque totalement inexpliqué. Le mystère des boules, des sphères curieuses, de grosses sphères de pierre qu'on a retrouvées dans la nature au Costa Rica. C'est Nathalie Hellal qui va nous raconter tout ça. Mais tout de suite, un petit Sergio Mendes, Más que nada. Sur Europe 1. J'adore, c'est la musique qui fait voyager, ça. Más que nada, le pianiste brésilien Sergio Mendes.
Europe 1, Philippe Googler.
Et si on partait toujours au Costa Rica, Nathalie Hellal, c'est à vous.
Oui, on va attaquer le Costa Rica, mais un petit peu en mode Indiana Jones.
Allez. Vous avez le chapeau ?
J'ai le fouet. J'ai juste le fouet pour vous.
Vous me faites peur. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ?
Oui, parce que figurez-vous qu'on a trouvé là-bas quelque chose d'absolument improbable qu'on appelle les bolas de piedra, les sphères de la région du delta de Diquis au sud du pays. Alors, vous allez voir que leur découverte, elle est aussi improbable que les explications des scientifiques jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en 1939 et en voulant planter des bananeraies, un explorateur cupide, ce qui est un petit peu un pléonasme en soi, qui défriche des milliers d'hectares.
Qu'est-ce que vous avez contre les explorateurs ?
Oh, bah, ils sont toujours là pour des bonnes raisons très, très, très pécuniaires en général. Donc cet explorateur est là pour défricher des milliers d'hectares de terre pour une compagnie américaine qui s'appelle la United Fruit Company, qui est une entreprise de production et d'acheminement de fruits donc américaine. Et puis, par hasard, complètement par hasard, on exhume dans la jungle 300 sphères en pierre granitique, ce qu'on appelle des mégalithes.
De quelle taille ?
De toutes les tailles, justement. C'est-à-dire que le diamètre peut aller de quelques dizaines de centimètres à plus de 2 mètres. Et les plus volumineuses pèsent plus de, écoutez-moi bien, 15 tonnes. Alors, ça a réussi miraculeusement à échapper totalement aux prédateurs de civilisations anciennes, précolombiennes. C'est-à-dire que ni les conquistadors espagnols, ni les missionnaires, ni les corsaires et les boucaniers qui trouvaient refuge dans le delta et venaient cacher leurs trésors n'ont découvert leur existence.
En même temps, c'est des boules de pierre.
En même temps, c'est des boules de pierre. Mais vous allez voir. Alors, bien sûr, au passage, les engins de la United Fruit Company vont déplacer les plus légères, en écrabouiller d'autres.
Ça les intéresse pas, quoi. Bah, ils tombent sur des boules énormes.
C'est littéralement une peau de banane pour la United Fruit Company qui veut planter justement des bananiers. Donc, il y a certains ouvriers quand même qui sont inspirés par des histoires fabuleuses d'or caché. Ils ont envie de dynamiter des sphères, des dizaines de sphères, parce qu'ils pensent découvrir de l'or à l'intérieur. Comme quoi, plus de 4 siècles après les conquistadors, rien n'a changé, hein, vraiment rien. Heureusement, ils n'ont pas tout saccagé, parce que la fille du grand patron de l'entreprise américaine, Doris Stone, est une archéologue, elle est absolument passionnée, elle apprend cette découverte et elle supplie les ouvriers, elle supplie le conducteur de travaux qu'on ne les enlève pas, ces sphères.
Et alors, est-ce qu'on a trouvé une explication à l'origine de ces sphères énormes? Et c'est des sphères parfaites, hein.
C'est des sphères parfaitement lisses, imaginez-vous, de la roche granitique, donc c'est très dur, très compact, mais parfaitement lisse, c'est... On ne sait même pas comment c'est arrivé là, qui les a transportées, parce que certaines sont très lourdes, je vous ai dit 15 tonnes. Comment ça a été poli à l'époque, avec quels outils, on ne sait rien. Et quand l'archéologue arrive 6 mois plus tard, elle est atterrée par l'ampleur des dégâts. Des centaines de sphères ont été déplacées, mais elle observe quand même des sculptures d'une hauteur parfois supérieure à 2 mètres et qui pèsent également plusieurs tonnes, qui représentent des personnages ou des animaux, mais elle n'arrive pas à les dater. C'est impossible parce que tout ce qui entoure le site a été dévasté. Ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs de poursuivre ses recherches, d'entreprendre tranquillement 8 ans plus tard une expédition et de publier sur le sujet. Alors elle arrive tant bien que mal à dater un petit peu la conception. Elle pense que ça a été fait entre 800 et 1350 années de notre ère. Mais qui les a conçues? Comment? Pourquoi? On ne sait pas, elle n'a pas la clé du mystère.
Donc c'est toujours un mystère.
Oui, et puis bien sûr, il y a des théories sur le sujet.
Par exemple?
Peut-être un signal extraterrestre. Alors des théories plus ou moins farfelues, bien évidemment. Probablement aussi, dit-on, la composition d'un calendrier astronomique super précis, un compas magnétique, ou bien un dispositif de navigation. Peut-être aussi des symboles mythologiques de la Terre et du Soleil. Peut-être aussi, c'est peut-être la théorie qui me fascine le plus, le jeu de boules d'un monde peuplé de géants.
Ou un anniversaire avec des ballons, mais en pierre.
Et c'est vrai que c'est très mystérieux, cette histoire. Et il y a même une ville où il y a beaucoup de ces boules qui traînent, qui s'appelle Las Bolas, les boules. Et vous avez la police de Las Bolas, l'école de Las Bolas.
Et on joue à la pétanque avec les sphères.
Mais non, c'est beaucoup trop gros. Elles sont énormes. C'est vraiment très, très gros. Merci beaucoup, Nathalie, pour cette histoire. Dans un instant, on retrouve Olivier Pouls après le mystère, les plaisirs de la bonne chère au Costa Rica.
16h, 18h. Et si on partait? Philippe Googler sur Europe 1.
Le Costa Rica, si on partait au Costa Rica. En ce moment, sur Europe 1, jusqu'à 18h, un grand voyage. Le pays de la nature, des jungles, des plages, des volcans, et des volcans magnifiques aussi là-bas. En revanche, je n'ai jamais entendu personne me dire « je vais au Costa Rica pour bien manger, Olivier Pouls ».
Non, je crois que ce n'est pas l'idée du voyage, en fait. Hein. Si c'est pour vous taper la cloche, il y a quelques pays d'Amérique du Sud qui sont, à mon avis, plus intéressants. Bah, c'est un pays dans lequel la nourriture est très simple. Alors, on disait tout à l'heure que c'est le pays dans lequel les gens vivent parmi les plus vieux du monde, peut-être. Est-ce dû, d'ailleurs, à cette alimentation, qui est une alimentation extrêmement dépouillée. Il y a 2 produits qui sont les produits phares du Costa Rica qu'on mange matin, midi et soir. Ben c'est les riz et les haricots. Difficile d'y échapper. On les mélange souvent d'ailleurs. Ça donne lieu à quelques plats dont je vais vous parler dans un instant. Mais c'est vrai que ce n'est pas une cuisine extrêmement variée.
Mais alors, c'est vrai que les fèves, on dit que c'est très important pour la longévité.
Oui, c'est très bon pour la santé. C'est très nourrissant, mais c'est également très bon pour votre organisme. Le riz aussi. C'est une cuisine en fait qui est peu grasse. Ouais. Et on le constate partout dans le monde où les cuisines sont peu grasses, ou en tout cas avec peu de gras animal, les gens vivent assez longtemps. Et il y a la mer aussi, évidemment, au Costa Rica, donc on peut manger du poisson. Et on sait que le poisson, là aussi, c'est plutôt bon pour la santé.
Il y a un plat national?
Alors, il y a même 2 plats nationaux. Alors, il y en a un qui s'appelle le gallo pinto, ça s'appelle littéralement le coq-pain. Et alors ça, c'est un plat qui est composé de riz, de haricots noirs. Et en fait, le haricot noir, quand il cuit, il va libérer de la couleur et il va se mettre à colorer le riz. Hein, d'où le nom du plat. On y rajoute des œufs et de la viande. Ça, c'est nourrissant. C'est pas, d'un point de vue gastronomique, extrêmement excitant.
La façon dont vous en parlez, ça fait pas du tout envie.
Non, ça fait pas rêver, mais c'est pas mauvais non plus. Hein. Ce sont, comme dira ma grand-mère, ce ne sont que des bonnes choses. Alors, on y rajoute parfois un petit peu...
Sens près de chez vous, voilà. Olivier.
On y rajoute un peu de coriandre. Il n'y a pas beaucoup d'épices non plus. C'est pas une cuisine extrêmement relevée. Et puis, un deuxième plat qui s'appelle le casado, qui s'appelle, lui, ça veut dire l'homme marié.
Ah oui.
Alors, tout simplement, parce qu'en fait, les bonnes épouses au Costa Rica, voyez-vous, préparent ce plat pour leur mari avant qu'ils partent au travail, elle leur emballe dans une feuille de bananier, donc ça s'appelle l'homme marié. Le type qui arrive avec ça, on dit, lui il est marié parce que sa femme lui a préparé ce plat. C'est sa gamelle.
C'est un message subliminal pour la vôtre
Peut-être. Chérie, je voudrais pour demain matin un casado, s'il te plaît. Alors, pour la recette, parce qu'elle ne la connaît pas, c'est pareil, hein, du riz, des haricots noirs, de l'avocat. On y rajoute un poulet préparé avec du citron vert et alors la banane plantain qui est là aussi une des grandes spécialités du Costa Rica qui est frite. On mélange tout ça et donc on l'emballe dans une feuille de bananier et on a un plat traditionnel costaricain.
Jean-Bernard, super qualité. Qu'est-ce que vous avez mangé vous là-bas, Jean-Bernard?
J'ai tous goûté et c'est vrai, je confirme, c'est des plats dont les qualités nutritionnelles sont vraiment exceptionnelles.
C'est pas super goûteux non plus,
c'est vrai, mais au niveau nutritif, c'est super.
Donc
bon.
Si je résume, la cuisine au Costa Rica, c'est mauvais mais bon pour la santé.
Exactement. Et
voilà, c'est meilleur pour la santé que pour le goût. Vous pouvez faire un plat très facile, du poulet au citron vert, qui est un plat qu'on mange assez couramment là-bas. Vous allez émincer du poulet et le cuire simplement dans du jus de citron vert. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir fait une grande école hôtelière pour faire ça. Mais ce n'est pas mauvais non plus. Hein. C'est du goût, c'est des produits.
C'est frais.
Et puis, qu'est-ce qu'on boit là-bas avec tout ça? Alors, très peu de vin. Il y a une toute petite production de vin au Costa Rica, mais qui, là, pour le coup, aussi, n'a strictement aucun intérêt. Non, ce qu'on moi, c'est le guaro. Le guaro, qui est l'alcool local, l'alcool national là-bas, qui est un alcool obtenu, c'est une liqueur à base de canne à sucre.
Ah, ça tape sur la tête.
Voilà,
ça, hein.
Là, c'est un peu.
Vous avez essayé aussi, ça, Jean-Bernard?
Oui, ça tape sur la tête. Je vous le dis, je n'en dirai pas plus.
Hein. Je ne suis pas sûr que ce soit ça, le secret de leur longue vie. Parce que...
mais c'est vrai, dans les bars, on peut en déguster facilement. Et ça se boit tellement bien qu'on oublie qu'on a bu du guaro. Ouais. C'est un peu le problème.
Bah oui, parce qu'en même temps, c'est un peu sucré. C'est souvent fait en cocktail. Et c'est le lendemain matin, quand on se réveille, qu'on se rappelle, tiens, j'ai peut-être forcé un peu sur le guaro.
C'est piégeux.
D'accord. Donc le guaro, en gros, pour oublier ce qui n'a pas trop de saveur, c'est un peu le secret.
Oui, et puis bon, une fois encore, c'est une cuisine qui est assez dépouillée, mais qui n'est pas mauvaise non plus. Mmh. Je vous défie, par exemple, de trouver un restaurant costaricain à Paris, ça ne va pas être facile.
Très bien, et bien nos amis costariciens auront apprécié ce moment délicieux de promotion pour leur cuisine. Dans un instant, tous les bons conseils de Jean-Bernard Carrier pour partir au Costa Rica et profiter de toutes ces bonnes choses. À tout de suite.
16h-18h, et si on partait ? Philippe Googler.
Et si on partait tous les jours sur Europe 1, tous les jours un grand voyage. Et aujourd'hui, ce pays qui est super parce qu'il est à la fois très exotique et en même temps facile, surprenant et en même temps très organisé. On l'appelle la Suisse de l'Amérique centrale. C'est vraiment une chouette destination, Jean-Bernard, pour vous.
Vous l'avez dit, c'est un pays facile, c'est un pays développé. Il faut vraiment qu'on se rassure avant de partir là-bas. Ouais. Il y a de très très bonnes infrastructures. Il y a des vols directs au départ de Paris avec Air France. Sinon, on peut passer par l'Espagne ou les États-Unis. Mmh. En vol direct, il faut compter à peu près 11 heures d'avion. Une fois qu'on est sur place, on loue une voiture. C'est comme si on allait en Corse, finalement, Olivier. Hein. On arrive sur place, on loue sa voiture, on fait le tour du pays. Il y a de très bonnes infrastructures routières. Pays très facile.
Alors, je précise qu'en ce moment, c'est pas si facile. Hein. Il faut attendre que ça se calme un petit peu du côté du Covid.
Que ça revienne à la normale, bien sûr.
Mais on est là pour rêver. Le Costa Rica, on l'a dit, c'est un paradis pour les animaux. Mais est-ce qu'on peut vraiment observer quelque chose sur les animaux? C'est toujours un peu compliqué.
Ah bah oui, alors, vous allez me dire, vous êtes allé voir le jaguar, parce que c'est un animal assez emblématique du Costa Rica. Ben non, c'est pas le jaguar que j'ai voulu voir. Moi, je voulais voir une faune bizarroïde quand même, parce que ce pays regorge d'espèces complètement dingues. Et moi, là-bas, je vais vous dire, ça va vous surprendre, j'ai adoré les grenouilles, figurez-vous. Les grenouilles.
Il ne faut pas aller aussi loin pour en voir. Hein. J'ai des adresses, si vous voulez.
Parce qu'il y a une grenouille, j'ai flashé sur une grenouille particulière, c'est la dendrobate. Elle fait quelques centimètres la taille d'un ongle, elle vit au pied des arbres sous les feuilles et la particularité c'est qu'elle a des couleurs éclatantes, bleu électrique, rouge fraise, jaune vif. la beauté du diable, parce que sa peau est recouverte de toxines qui sont venimeuses pour l'organisme humain. Les Indiens se servaient d'ailleurs de ces sécrétions pour empoisonner la pointe de leurs flèches. Voilà déjà un bel animal.
Flippante, cette grenouille.
Ah, oui. On mange pas les cuisses, là.
On mange pas les cuisses, tout à fait.
C'est dingue.
Alors, il y a un autre animal aussi. Vous en avez parlé tout à l'heure un petit peu. C'est le Quetzal.
Oui. L'oiseau des Mayas.
Mais qu'est-ce qu'il est beau, cet oiseau symbolique, effectivement, dans les cultures aztèques et mayas. Alors, lui, il a une bonne petite bouille, une bonne petite bouille ébouriffée. La poitrine est toute rouge. Et le reste du corps est vert vif. Et surtout, il a une interminable queue vert émeraude. Donc, c'est vraiment un animal agréable à regarder et à photographier. Tout ça, bien sûr, en étant accompagné d'un guide naturaliste qui saura vous le trouver.
Oui, parce que c'est pas facile.
Ah, c'est pas facile. Il se cache bien dans la canopée, celui-là.
Nathalie, remettez-vous. Tout va bien. Tout va bien. Respirez.
Tu m'as fait rêver.
Jean-Bernard, vous me faites de la peine, vous savez. Parce que je pense que vous êtes le seul être humain au monde à penser que les paresseux, ces adorables petits animaux, vous ont énervé.
Il m'a crispé, le paresseux. Mais quelle horreur! Surtout le paresseux à deux doigts. Parce qu'il y a celui à trois doigts, le tridactyle, et il y a celui à deux doigts. Le paresseux à deux doigts, c'est une espèce de boule de poil. Essayez de visualiser une boule de poil qui vit accrochée dans les branches.
Mais oui, qui est tout tranquille, qui est tout mignon.
Oui, tout tranquille. Alors, il a la tête en bas. Mais surtout, c'est l'animal le plus lent du monde. C'en est presque énervant quand on l'observe parce qu'il ne bouge pas.
Je crois que j'en ai eu un à la maison pendant quelques années.
Il était accroché à un arbre aussi?
Non, dans sa chambre.
Voilà, c'est un petit peu ça. Alors, vous voyez un petit peu le mode slow motion en vidéo, c'est ça. Il bouge à peine. On a l'impression dans un film au ralenti. Moi, ça m'a vraiment perturbé. Alors, le comble, c'est qu'il a un métabolisme qui est tellement lent, c'est qu'il descend de son arbre une fois par semaine seulement pour déféquer, figurez-vous. Ouais. Une fois par semaine.
Pour aller aux
toilettes. Il est vraiment tranquille, cet animal. Alors, faites
pas le cas chez vous aussi, Olivier.
Alors, ça faites attention, les amis, ça dérape là. Le paresseux, il y a quand même un truc assez étonnant, c'est qu'on croit qu'il est vraiment paresseux. En fait, c'est une stratégie. C'est-à-dire que comme les animaux qui sont autour de lui pourraient être dangereux, il fait semblant d'être paresseux. C'est-à-dire qu'on pense qu'il n'est pas menaçant. Mais si jamais on s'approche et qu'on veut l'attraper, là, il peut être très rapide, griffé.
Philippe, vous avez été guide naturaliste dans une autre vie?
Non, mais j'ai rencontré des paresseux et moi, ils m'ont touché. Alors, vous avez exploré plusieurs parcs nationaux au Costa Rica et je crois qu'il y en a un que vous préférez.
Oui, alors c'est le parc national Rincón de la Vieja. Vous allez voir pourquoi. Lui, j'y suis pas allé pour voir la faune au départ parce que lui, il est célèbre pour une activité géothermique. On a l'impression d'être sur la Lune dans ce parc. Il y a une activité volcanique qui est vraiment perceptible. Des gros lacs de boue bouillonnante à 90 degrés, des espèces de chaudrons de sorcières. À côté de ça, il y a des fumerolles, il y a des geysers. C'est vraiment un volcanisme actif. On est vraiment dans un autre monde. On est un petit peu sur la planète Mars, si vous voulez. Et le plus incroyable, quand on est dans ce parc, on est en train de regarder ce paysage très spectaculaire, c'est la bande son. On marche au milieu de ce paysage et soudain, on entend ça.
Ça fait peur, non?
Ah bah ça, vous savez ce que c'est? C'est des singes hurleurs. Ils sont cachés dans la canopée et là, en fait, ils sont à plus de 2 km du point où vous les entendez, tellement la voix est rauque et c'est terrifiant. Là, ça va encore avec la bande-son, ça peut aller. Mais
pourquoi est-ce qu'ils hurlent?
Ils hurlent parce que c'est leur façon de communiquer, mais ils ont des espèces de cordes vocales très spécifiques. Je peux vous assurer que vous en avez une cinquantaine qui entament un concert de cette nature-là.
Ils pourraient faire des polyphoniques.
Ils veulent beaucoup moins agréable, quand même. Hein. Ils ont faim.
Merci beaucoup, Jean-Bernard. Merci, les amis. Merci à vous de nous avoir écoutés, d'avoir voyagé avec nous. Si vous avez envie de repartir, pas besoin d'attendre les prochaines vacances. On repart demain.
Demain,
absolument. Demain. Pour deux destinations divines. La Namibie, le pays des déserts incroyablement purs. Namib, en langue Nama, ça signifie le pays où il n'y a rien.
Puis il n'y a pas de paresseux, surtout.
Rien du tout.
Ça va encore être facile de faire à manger.
Mais c'est, malgré tout, les plus beaux déserts du monde. Donc ça vaut le coup de venir, puis débrouillez-vous pour nous trouver à manger, c'est votre boulot. Et puis, première heure, on ira aussi dans une région délicieuse dont la lumière, les paysages et l'atmosphère, moi, me font rêver. C'est le Luberon. À demain dans « Et si on partait ?»